France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. C'est une menace sans précédent qui pèse sur la majorité des habitants de la planète. Un spasme mortifère de la mondialisation qui démontre à la fois nos interdépendances, les inégalités en matière de santé publique d'un continent à l'autre, mais aussi la porosité et la fragilité des systèmes les plus performants, notamment en Europe. Le coronavirus, on le sait, est apparu en Chine, à Wuhan, à la fin décembre. On a vu depuis comment le pays a fait face en déployant toutes les méthodes que s'autorise un régime autoritaire, depuis le déni au départ jusqu'au confinement de millions de gens, l'injection massive de moyens et le resserrement de la censure pour museler toute colère. Aujourd'hui, ce sont les sociétés démocratiques qui doivent affronter la pandémie. En France, Emmanuel Macron déclenche la mobilisation générale et met en œuvre toutes les ressources de l'État-providence. En Italie, le gouvernement prend des mesures drastiques, le pays est bloqué, la mortalité continue d'augmenter. Pourquoi la péninsule est-elle ainsi frappée? Quelle est la situation ailleurs en Europe? Pourquoi aussi si peu d'harmonisation des moyens? Aux États-Unis, après avoir minimisé le danger, Donald Trump annonce un plan qui ne convainc même pas son propre camp, dont l'interdiction du territoire aux Européens, et accélère ainsi le krach boursier. Le fléau progresse. Pourquoi le système de santé américain est-il aussi défaillant? Quel impact sur la campagne présidentielle en cours? L'Iran apparaît déjà comme l'un des pays les plus touchés. Pour quelles raisons? Le continent africain est atteint en son tour. Où parvient-on à mieux contenir le péril? L'économie mondiale ralentit, les marchés financiers s'effondrent et puis remontent provisoirement. Ce matin, concentrons-nous plutôt sur la santé publique, partout mise à l'épreuve, et sur les impacts politiques. Et nous allons explorer ce sujet complexe et bouleversant pour la plupart d'entre nous. Grâce à vous, Ludmila Akon, et bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire à Paris 1, spécialiste de l'Italie contemporaine. Karine Milsan, économiste, chercheuse au CNRS, professeure associée à Paris Sciences Économiques. Avec nous aussi, et bonjour. Je leur remercie, Anne Sénéquier.
Bonjour.
Vous êtes la co-directrice observatoire de la santé mondiale à l'IRIS. Clément Terme,
bonjour.
Chercheur au CERI, à Sciences Po, spécialiste de l'Iran, et par téléphone avec nous depuis l'université du Michigan à Ann Arbor aux États-Unis, Sarah Rosenblum. Vous êtes française, vous êtes une chercheuse en santé publique et en sciences politiques. On va évidemment commencer par l'Italie avec vous, Ludmila Akon, et on sait que l'Italie est désormais le deuxième pays le plus touché avec un nombre de morts qui dépasse maintenant le millier de personnes. Le pays est complètement bloqué et en discutant avec un ami ce matin, il me disait le plus étrange, c'est le silence.
Oui, oui.
Le silence dans ces villes qu'on connaît tous, qu'on aime tous, tellement animées. Mais ce qui est frappant aussi, c'est la discipline.
Oui, absolument. Je pense que les Italiens sont vraiment traversés par un sentiment de gravité, de responsabilité aussi, très important. Ils savent, ils ont compris que c'est de leur conduite que dépend aussi la survie des autres, de tous ceux qui peuvent être contaminés. Donc il y a vraiment un réflexe général. Les gens, par milliers, vont se déclarer comme ayant été contractés le virus, sans forcément le développer en tant que maladie. Ils vont dans les préfectures, ils se signalent, ils respectent les distances de sécurité, ils restent chez eux et ils trouvent des moyens pour vivre et pour travailler chez eux ou à travers l'aide du voisinage.
Ce qu'on comprend mal, vu de France en particulier, comment le système de santé s'est-il effondré dans la région du pays qui est la plus riche, c'est-à-dire l'Italie du Nord, la Lombardie, capitale Milan? Pourquoi est-ce que c'est là que la crise s'est véritablement accélérée et que les hôpitaux craquent?
Je pense que d'abord, nous ne connaissons pas l'origine de la contamination. Déjà, c'est un premier point. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le mal de la santé italienne, enfin, il y en a deux principalement, c'est que c'est un pays qui a une constitution et un fonctionnement à la base très démocratique, mais qui a subi une série de mesures et de réformes qui tiennent compte d'une part d'une régionalisation dans la santé et aussi dans d'autres services publics, et aussi d'un manque criant et d'une imputation progressive de fonds publics.
Donc, régionalisation, ça veut dire que ce sont les présidents des régions, en l'occurrence l'Italie du Nord, ce sont des présidents de côté Salvini ou côté Berlusconi. Est-ce que politiquement, ça a son importance ?
Ça a beaucoup d'importance. Je vous donne un exemple très clair. Vous avez des régions, par exemple, qui ont un certain type de politique en Italie, qui ont tendance, par exemple, à ne pas avoir la même politique sur la santé des femmes que les autres. Je pense par exemple à des régions où on a fait des politiques familiales très en contre-tendance avec les droits des femmes, si vous voulez, par exemple. Vous avez aussi une situation de pauvreté qui existe par exemple dans le Sud, qui fait que d'une part, la dotation budgétaire, elle est aussi en fonction de la richesse de la région, mais vous avez aussi des spécificités par rapport à le rapport entre le public et le privé. Et le privé est très important depuis quelques années, notamment dans la situation de santé italienne. Et il est clair que si le public ne met pas les moyens, ben, vous voyez, ça pose un...
Et donc, le drame serait évidemment que la contamination descende vers le sud de la Botte et en Sicile, parce que là, les infrastructures de santé publique sont...
Oui, si ce qui s'est passé en Lombardie s'était passé en Campanie ou dans d'autres régions, par exemple du Sud, je ne peux pas imaginer ce qui pouvait pas se passer. Ce qui, en Lombardie, nous avons des structures extrêmement performantes, mais il y a une inégalité territoriale entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein des mêmes régions.
Mais même en Lombardie, on voit des médecins à bout de force qui disent on n'a plus rien, on n'en peut plus. Il y a un autre facteur sans doute. Je crois que l'Italie a la population la plus âgée d'Europe.
Il y a ça aussi. Et donc là, on doit parler de politique sociale et aussi de la dégradation des conditions de vie de la population en général et des personnes âgées en particulier, notamment la situation de l'accès aux retraites et des conditions de vie des personnes retraitées qui est effectivement en baisse. C'est une situation qui ne leur permet pas de résister efficacement, sauf exception bien sûr, hein, sauf catégories qui sont particulièrement fournies, ne leur permet pas de réagir avec beaucoup de force à ce qui se passe.
Mais ce qui est au bord qui évidemment fait frémir, c'est l'idée qu'il peut y avoir un tri. C'est-à-dire que les médecins soient obligés de décider qu'une personne âgée ne devrait pas monopoliser les moyens qui pourraient être les moyens médicaux qui pourraient être consacrés pour sauver une personne qui a une espérance de vie plus longue.
Alors, déjà, il y a un contexte qui est tout à fait inquiétant depuis quelques années, au fur et à mesure, depuis la crise des subprimes en particulier, depuis la crise de 2008, au fur et à mesure des discours sur la priorité des uns et des autres dans les accès aux soins.
Oui, mais là, précisément, aujourd'hui.
Eh bien, c'est un discours qui malheureusement est à la fois le résultat d'une situation de stress sanitaire, parce que les médecins n'en peuvent plus. Et évidemment, il faut faire attention parce que ce discours peut aussi rencontrer, d'un point de vue politique, des opinions qui tendent à faire une hiérarchie entre les personnes à soigner, évidemment.
Anne Sénéquier, on voit bien que en Europe, on reproche toujours à l'Europe de ne pas faire ce qu'elle n'a pas été conçue pour faire, et en particulier la santé publique. Ce n'est pas une politique commune, on peut le regretter, il serait peut-être temps de s'y mettre. Mais il y a néanmoins, me semble-t-il, un principe commun qui est celui de l'État-providence, de la sécurité sociale et d'un accès aux soins plus ou moins gratuit selon les pays européens, mais il y a là une architecture qui est commune. Jusqu'à quel point est-ce que cela permet en Europe d'amortir les phénomènes et d'éviter qu'ils prennent la même ampleur et la même accélération qu'en Italie ?
Pour ce qui est de l'Europe, oui, on a une architecture commune. Les différents pays ont choisi parfois des approches différentes. L'Allemagne et la France ont choisi ce qu'on appelle le modèle bismarckien, où on va
bismarckien.
Oui, exactement. Où on est sur une approche de ce sont les salariés qui financent le système de sécurité sociale, alors que le système en Angleterre et dans l'Europe du Sud, c'est un système plus universalisme où on va être dans tout le monde est protégé, que ce soit salarié ou pas. Mais finalement, il n'y a pas un système qui fonctionne et un système qui fonctionne pas. Et finalement, on est tous sur des systèmes mixtes parce que on se rend compte dans les dernières décennies que chaque système arrivait à un moment donné en bout de course et que ça ne permettait pas de répondre ne serait-ce qu'aux besoins sanitaires usuels.
Quelle est la situation aujourd'hui en Allemagne? On a vu que Madame Merkel s'est mise au premier plan, ce qu'elle fait rarement, conférence de presse, et elle a déclaré, avec l'espèce de placidité qui la caractérise, c'est une scientifique, probablement ça doit expliquer, ceci doit expliquer cela, que 60 à 70% de la population allemande sera infectée.
Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se donner sur cette probabilité. Finalement, on n'en sait rien. Et le principe d'une épidémie, c'est de suivre au jour le jour et d'adapter les réactions au jour le jour. Donc dire 70% de la population sera infectée, je suis désolée, mais ni Madame Merkel ni personne d'autre sur Terre n'est capable de le prédire. Donc peut-être ça sera vrai, mais peut-être pas. Ce qui est important, finalement, c'est d'adapter la réaction à la situation actuelle. Et on a une temporalité pour chaque réaction. Il ne faut pas être trop en avance, il ne faut pas non plus être trop en retard, et tout est une histoire de temporalité en fonction de la pénétration du virus dans le territoire et de sa diffusion.
Alors il semble que là, les Allemands aient été très efficaces parce que le premier patient, enfin le patient zéro, comme on dit dans votre jargon, a été identifié en Bavière. Oui. Et donc, aussitôt, des mesures d'isolement ont pu être prises, ce qui a ralenti la propagation.
C'est ce qui fait tout l'intérêt, justement, d'identifier ces personnes, première personne, donc le premier cas, le patient zéro, effectivement. Il y aura un patient zéro dans chaque pays, voire plusieurs patients zéro, puisqu'on est de toute façon en Europe aujourd'hui, puisque l'épicentre est la Chine, sur des cas importés. Donc on parle d'un cas importé, donc d'un patient zéro, mais il peut avoir plusieurs patients zéro en fonction de ce qu'on appelle les fameux foyers, enfin, les clusters. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a identifié cette personne, on peut identifier les personnes contacts, les mettre en observation, leur demander de limiter les contacts eux-mêmes pour éviter cette fameuse transmission qui est estimée entre 2 à 3 personnes infectées à partir d'un premier cas.
Et donc, ça expliquerait que pour le moment, en tout cas, en Allemagne, la courbe de progression est moins rapide qu'ailleurs en Europe. On voit que ça s'emballe en Espagne, par exemple.
En émettant l'hypothèse qu'il n'y avait pas de patients asymptomatiques, donc qui ne présentent pas de symptômes et qui, du coup, ne s'inquiètent pas de transmettre ou pas le virus, puisqu'ils n'en sont pas conscients, et de voir l'émergence d'un autre foyer, un autre endroit en Allemagne. Mais c'est vrai aussi en France et dans tous les pays. On a aussi cette problématique de l'épidémie sous-marine qui n'est pas identifiée.
Et on voit donc des pays qui s'en préoccupaient assez peu jusqu'à ces derniers jours, tout à coup, s'affoler. Donc l'Espagne, la Grèce aussi, avec cette information qui est quand même absolument sidérante. En Grèce, le Conseil des évêques orthodoxes continue d'affirmer que les baisers sur les icônes immunisent contre le virus.
Oui.
Sans commentaire.
Non.
Parlez-nous de la Grande-Bretagne. On a vu le Premier ministre Boris Johnson à la télévision l'autre soir dire « Voilà, c'est la crise la plus grave qui soit. » Et nos chiffres officiels, dit le Premier ministre, sont sous-estimés.
Oui. particularité en Angleterre, c'est qu'on a peu de médecine de ville. Tous les médecins spécialistes sont dans en hospitalier. On s'inscrit sur une liste d'un general practitioner. Et effectivement, il y a peut-être ce retard à la réaction. Ce que l'on a en France et qu'ils n'ont pas, et qu'on a entendu parler très souvent ces dernières semaines, c'est l'existence du SAMU, qui a fait le lien, nous, entre la médecine de ville, aujourd'hui, qui est un peu plus présente, et l'hôpital, pour éviter finalement que l'afflux de patients possibles, de cas possibles, se retrouve à l'hôpital, qui est un foyer de personnes vulnérables.
Mais un système hospitalier en Grande-Bretagne qui est très appauvri après 10 ans d'austérité depuis le gouvernement Cameron.
Exact. Donc
à qui on doit aussi, soit dit en passant, le référendum sur le Brexit.
Oui, aussi. Il manque de l'argent, il manque du personnel, et là est le problème, et cette capacité, en fait, il va falloir monter en puissance en termes de capacité d'accueil, que ce soit sur les cas graves et les cas nécessitant une réanimation. Et là, aujourd'hui, on est sur cette problématique-là.
On a vu aussi que le gouvernement britannique a réagi avec beaucoup de froideur, sinon même avec une forme de dédain, au cadeau fait par Donald Trump, qui a dit mercredi soir, quand il a annoncé que tous les Européens ne pouvaient plus mettre les pieds aux États-Unis pendant un certain temps, sauf les Britanniques. Oui. Eh bien, le gouvernement anglais a plutôt critiqué cette décision. Sarah Rosenblum, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse en santé publique et sciences politiques à l'Université du Michigan, votre université qui vient de fermer, je crois.
Tout à fait, alors l'université ferme ce soir, les enseignements sont suspendus, les réunions publiques sont interdites, nous pouvons continuer à enseigner à distance et à échanger avec nos professeurs, nos collègues par voie de Skype, mais voilà, c'est la situation et actuelle est un petit peu difficile.
Oui, et ben c'est le cas maintenant pratiquement dans toutes les universités d'Europe aussi. On a vu le président américain, c'était le 11 mars dernier, mettre en cause un virus étranger. En gros, c'est la faute à l'Europe. C'est l'Europe qui n'a pas su prendre ce virus suffisamment en compte et le vaincre suffisamment. Donc voilà, je ferme les frontières, a-t-il dit, l'Amérique d'abord. Et il ajoute, aucune nation n'est aussi bien préparée que la nôtre. Or, il semble que bien au contraire, la gestion par l'administration Trump depuis l'apparition du virus, qu'il qualifiait à l'époque, c'était plus exact, de virus chinois, cette gestion a été désastreuse.
Oui, tout à fait. Déjà, pour revenir à ce que vous dites, sur quoi vous disiez un instant, c'est vrai que, tout d'abord, le président Donald Trump a vilipendé la Chine. Il avait qualifié le Covid-19 de virus de Wuhan, et à présent, il se tourne vers l'Europe, il a dénoncé ce qu'il a appelé la réaction laxiste de l'Europe, qui, selon lui, aurait contribué à intensifier la propagation du virus sur le territoire américain, qui est faux, en fait. Hein. Je veux dire, restreindre les voyages en provenance d'Europe, ce n'est pas fondé scientifiquement, parce que le virus est déjà présent sur le territoire américain et que le fait de la propagation du virus ne va pas dépendre de l'importation de cas européens. Et pour répondre donc à votre question, plus précisément, la gestion de la crise par l'administration Trump est un petit peu chaotique, effectivement, et le système de santé américain n'est pas vraiment préparé. Pour vous donner quelques chiffres, c'est vrai que les États-Unis disposent de, par exemple, 80 000 lits en réanimation, dont 60% d'entre eux sont déjà occupés par différents types de patients, pour différents types de pathologies. Donc, 45 000 lits sont disponibles, ils sont répartis de manière inégale sur le territoire américain. Leur répartition ne correspond pas à l'émergence actuelle de clusters, donc de foyers de contagion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'université Johns Hopkins a publié il y a quelques jours une étude qui montrait qu'en cas de contagion modérée, 200 000 personnes auraient besoin d'être admises en réanimation. Et en cas de contamination sévère, ce qui est le scénario qui est peut-être le plus probable actuellement, plus de 3 millions d'Américains nécessiteraient une place en réanimation. Et nous sommes, le système de santé n'est pas capable d'absorber ce choc. Et par ailleurs, c'est vrai que le système de santé américain est moins avantageux que le système français, par exemple. beaucoup d'Américains ne sont pas assurés. Plus précisément, 44 millions d'Américains sont mal assurés. 37 millions n'ont pas d'assurance maladie. Les frais de dépistage du coronavirus, la prise en charge médicale à l'hôpital sont très chers. Et ces coûts peuvent dissuader beaucoup de personnes de se rendre à l'hôpital, de se faire soigner.
Oui, 4 000 $ pour avoir le privilège d'un test à l'hôpital. 4 000 $.
Effectivement. Alors, les prix varient d'une institution à l'autre, mais les coûts sont effectivement très élevés. Ce qu'il faut savoir à ce sujet, ce qui est préoccupant, c'est qu'en fait, les laboratoires privés peuvent également pratiquer ces tests de dépistage, mais ils ne communiquent pas les résultats des tests, qu'ils soient positifs ou négatifs, aux autorités fédérales américaines. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de cas recensés, déjà, n'est pas conforme à la réalité. Les chiffres officiels sont en deçà du taux réel de contamination, mais à cela s'ajoute un problème de communication entre des laboratoires privés et des hôpitaux publics qui pratiquent tous des tests, mais qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Et ça rend très difficile en fait la gestion de la crise, parce que pour en santé publique, de manière très basique, pour pouvoir lutter efficacement contre ce type d'épidémie, il faut pouvoir identifier les zones sensibles, les foyers de contamination sur lesquels il faut concentrer tous nos efforts. Et actuellement, les capacités de dépistage américaines sont très en deçà des besoins.
Mais alors ça aussi, Sarah Rosenblum, c'est très étonnant, parce que à Atlanta est basé le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, qui est censé être un modèle pour le monde entier. Et là, le CDC a cafouillé pendant plusieurs jours au sujet de ces tests de dépistage, en refusant notamment un test allemand parce qu'ils préféraient des tests américains. Et donc là aussi, semble-t-il, ils ont perdu un temps fou. Et il n'y a pas suffisamment de tests aux États-Unis, le pays le plus riche du monde.
Tout à fait. Alors, je disais il y a peu que, en fait, entre le début de l'épidémie aux États-Unis et lundi dernier, seuls 4 000 tests de dépistage avaient été pratiqués, en fait, selon les chiffres officiels, ce qui est très peu au regard de la taille de la population américaine. Mais vous avez raison de souligner ces cafouillages. Le CDC, basé à Atlanta, est la première agence de santé publique aux États-Unis, sont en première ligne pour lutter contre le virus, pour édicter des recommandations de bonnes pratiques, pour concevoir et généraliser les tests de dépistage. Et ils ont fait ce choix très étonnant de ne pas utiliser les tests mis au point par l'Allemagne, mais de concevoir de toutes pièces leurs propres tests, ce qui déjà a pris du temps. Et une fois le test prêt, en fait, il s'est avéré dysfonctionnel, il ne marchait pas. Et donc ça a retardé de 2 à 3 semaines les dépistages des premiers cas de coronavirus aux États-Unis.
Et pendant ce temps-là, le président Trump, à la télévision, sur Fox News évidemment, et sur Twitter, disait « mais tout ça, c'est pas grave, nous sommes les meilleurs et vous allez voir, tout ça va disparaître comme un miracle ». Sarah, restez en ligne avec nous, s'il vous plaît, quelques minutes encore, parce que je voudrais vous demander, Karine Milsan, je rappelle que vous êtes économiste, chercheuse au CNRS et spécialiste de la Chine en particulier. Comment réagissez-vous quand on voit le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois qui, hier ou avant-hier, reprenait cette espèce de slogan le virus est américain. Le virus vient des États-Unis et ce sont les États-Unis qui ont empoisonné la Chine. Donc on voit que ce virus qui est apparu à Wuhan fin décembre, 3 mois après, la bataille de la propagande n'a véritablement pas molli.
Non, c'est une suite en fait d'une guerre économique qui avait commencé avant l'épidémie. Et au départ, lorsqu'il y a eu le début de l'épidémie, le début des premiers cas à Wuhan, il y a des experts américains qui s'étaient proposés pour comme aide, et la Chine avait catégoriquement refusé, puisque en fait il y a une véritable opposition qui dépasse en fait l'opposition sanitaire présente entre les États-Unis et la Chine.
Donc on voit à quel point la géopolitique aussi, bien évidemment, a continué d'empoisonner.
Affecte également la crise sanitaire qui est présente ici.
Quel est le point de la situation aujourd'hui à Wuhan? C'est toujours la quarantaine.
Alors, disons que une épidémie, ça suit une certaine courbe avec une partie ascendante Et puis ensuite, on arrive sur une espèce de plateau pour entamer une descente pour aller vers une normalisation.
Et donc serait, là, c'est ce que disent les autorités
aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on entend comme chiffre et ce qu'on peut regarder nous laisse supposer qu'on serait sur un plateau. Il faut malgré tout être relativement prudent, puisque comme ça a été dit, ça peut, un nouveau foyer peut démarrer. Donc à la fois, c'est très rassurant. Ça veut dire que au bout d'un certain temps, on peut se dire qu'on peut être à même de aller au-delà de cette épidémie. Et en même temps, il faut ne pas se précipiter et garder des gestes sûrs, des gestes d'isolement qui permet en fait la non-propagation. La Chine est un territoire immense. Pour le moment, ce qui a été confiné, c'est une province sur cet énorme territoire. Et on voit que ce qu'ils ont mis en place a relativement fonctionné, puisque les cas hautes sont des cas éparses. Hein,
mais avec des confinements et des quarantaines.
Mais avec des confinements, j'ai eu il y a quelques jours, un collègue qui était à Pékin et qui me rappelait, donc, qui était en capacité de travailler, et qui me rappelait que la température était contrôlée malgré tout 3 fois par jour. Donc on voit bien que les résultats qui sont observés sont quand même des résultats qui sont liés à un fort isolement et à un contrôle de la population.
Et un contrôle qui passe évidemment aussi par le resserrement de la surveillance des réseaux sociaux, où on avait vu une ébullition malgré toutes les techniques informatiques chinoises pour contrôler ce que les gens disent. Les Chinois trouvent des périphrases, mais on avait vu au moment de la mort de ce jeune médecin qui avait sonné l'alerte, c'était je crois à la mi-janvier, et là il y avait eu vraiment une indignation qui s'était manifestée. Et là aujourd'hui, qu'à 1100, on a l'impression que le régime utilise cette crise majeure pour resserrer encore son contrôle sur la population.
C'est une manière d'agir qui n'est pas spécifique à ce cas, très présent de crise sanitaire importante. En fait, c'est une manière de prendre le pouls de l'opinion, de savoir à quel point cette situation est difficile à vivre et à quel point le grognement est important. Donc, par moment, on laisse échapper des choses pour avoir le pouls de cette société...
Une manière de sondage à la chinoise, quoi.
Si vous voulez, cette société civile. Et une fois qu'on a un peu compris ses revendications,
on
y répond à travers des mesures qui sont ciblées et on étouffe à nouveau pour que la réponse donnée ne soit pas de suite contestée. Donc on étouffe, on donne une réponse allant dans le sens des contestations et puis on resserre pour laisser en fait ce qui a été décidé s'imbiber en fait. Donc oui, mais il est intéressant de voir dans cette crise la place du digital. Vous faites remarquer le cas pour la Chine. J'ai envie de rebondir sur ce qu'on peut observer dans les autres pays d'Asie. La manière de gérer ça est énormément à travers le digital, à travers la manière dont on traque les gens via les vidéos de surveillance. Quand on a diagnostiqué un cas, on peut remonter l'historique de la personne pour voir où est-ce qu'elle a été et avoir des indications sur les différents lieux et donc potentiellement d'autres personnes atteintes. On peut ensuite, toujours à travers cette arme, le digital, contacter les gens qui ne sont pas forcément infectés, leur faire savoir qu'ils ont été en contact directement via leur téléphone.
Ce sera, en particulier pour nous autres en Europe, un choix à terme très difficile entre la liberté individuelle une forme de... De protection sanitaire.
C'est ça.
Un mot encore sur la manière dont le régime chinois utilise ou récupère cette crise gravissime de santé publique, parce que on voit aussi, malgré la situation qui est vraiment à une échelle qu'on n'imagine pas aujourd'hui encore en Chine, comment ils proposent leur aide, que ce soit à l'Italie, que ce soit à l'Iran. Et donc voilà, donc c'est la Chine qui envoie des médecins, qui envoie des masques, qui envoie des appareils respiratoires.
Il faut voir que derrière cette crise sanitaire se cache une crise économique, mais également des relations de pouvoir économique excessivement fort. Et qu'en fait, si vous voulez, il y a eu différents moments au cours de cette crise où la Chine s'est montrée comme un pays excessivement fort. Il y a eu la construction de ces deux hôpitaux qui étaient, en termes médiatiques, en termes de communication, quelque chose d'assez incroyable. En termes sanitaires, je ne suis pas sûre qu'on avait vraiment nécessité de construire, mettre les gens dans des endroits spécifiques, oui, mais de construire ces établissements, c'est préfabriqué pour institutions de santé, j'en suis pas certaine. Donc vous voyez bien qu'il y a, que s'imbrique en fait à travers cette crise sanitaire quelque chose qui va bien au-delà et qui va dans une espèce d'histoire communicante, si vous voulez. Et donc l'aide apportée aujourd'hui, que la Chine se propose à apporter, rentre parfaitement dans cette même ligne. Nous sommes en capacité, nous sommes aussi une puissance mondiale et nous sommes en capacité d'offrir une aide en tant que puissance mondiale.
Une puissance mondiale, Sarah Rosenblum, dont les États-Unis perçoivent aujourd'hui l'impact. Il semblerait que 90% des antibiotiques utilisés aux États-Unis proviennent de compagnies chinoises. Et donc, il y a, à travers cette crise du coronavirus qui se répand aussi aux États-Unis, une remise en cause de cette interdépendance qui déjà, avec l'administration Trump, a été l'objet de tractations et de négociations extrêmement tendues avec la Chine.
Tout à fait. Effectivement, et ce qui a été sur l'inquiétude il y a quelques jours, dans cette mouvement, c'est lorsque le président a interdit l'entrée sur le territoire américain des voyageurs en provenance d'Europe, il y a une espèce d'ambiguïté dans son message où il a laissé entendre que les biens importés d'Asie et d'Europe seraient également interdits d'entrée. Et en fait, la Maison Blanche a dû publier un communiqué dans lequel elle précisait que ce n'était pas le cas, que le président s'était un petit peu emmêlé les pinceaux et que le matériel médical et les médicaments en provenance de Chine notamment et d'Europe qui étaient nécessaires aux Américains continueraient à être acheminés aux États-Unis.
Jusqu'à quel point est-ce que l'opinion publique, vous êtes en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, évidemment ça agite bien davantage le camp démocrate que les républicains, mais jusqu'à quel point la manière, le style du président Trump confronté avec une crise de ce genre, jusqu'à quel point est-ce que son image a été affectée ou non aux yeux des Américains ?
Alors, c'est difficile à dire à l'heure actuelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie du gouvernement américain pour lutter contre l'épidémie, si on peut parler de stratégie, hein, c'est un grand mot d'occurrence, mais elle est loin de faire l'unanimité au sein du Parti républicain, elle divise l'opinion publique, parce que cette stratégie, jusqu'à présent, est strictement économique. Hein, on l'a vu, le président veut minimiser les effets de la crise sur l'économie américaine. Jusque-là, cette économie se portait bien, il voulait en faire l'un des leviers de sa réélection en novembre 2020. Donc il a annoncé une série de mesures le mardi 10 mars comme un allègement de charges et des taxes sur les salaires, mais beaucoup d'observateurs, y compris les députés, ont qualifié ces mesures d'insuffisantes et ces mesures n'ont pas réussi, notamment l'interdiction sur le territoire américain des voyageurs européens, ces mesures n'ont pas réussi à rassurer les marchés financiers, on l'a vu encore le jeudi 12 mars. Par ailleurs, la stratégie du gouvernement n'est pas optimale parce qu'il y a un certain nombre d'options qui s'offrent au président américain qu'il choisit délibérément d'ignorer et ça mécontente une partie de l'opinion publique. Pour vous donner quelques exemples, le président américain pourrait modifier les critères d'éligibilité du programme fédéral Medicaid pour permettre aux personnes qui ne sont pas assurées d'être temporairement assurées, donc qui leur permettrait de faire des pièces, qui leur permettrait à l'hôpital et de s'en soigner le cas échéant. Et ça, c'est une chose qu'a fait, par exemple, l'un de ses prédécesseurs républicains, le président Bush, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Les victimes des attentats qui n'avaient pas d'assurance maladie ont pu bénéficier à titre temporaire et en tant que mesure d'urgence du programme fédéral Medicaid, qui, en temps normal, est réservé aux personnes pauvres.
Donc, une gestion qui paraît toujours brouillonne. Pendant ce temps, les candidats à l'investiture côté démocrate annulent leur meeting, en particulier Joe Biden hier a annulé son meeting à Chicago, annulation aussi du côté de Sanders. Le Congrès américain a la main et vient de signer une loi pour accorder quelque 7 milliards d'euros pour la recherche et la mise au point des tests, ce qui est évidemment la première démarche. Merci mille fois, Sarah Rosenblum, d'avoir été par téléphone avec nous. Clément Terme, venons-en à l'Iran. Et la corrélation est évidente aussi, puisque l'Iran subit de plein fouet les sanctions américaines, et donc j'imagine que c'est un facteur d'affaiblissement encore de l'économie et des structures sociales en Iran, qui est devenu, semble-t-il, si on regarde les chiffres, et on n'a probablement pas les vrais chiffres s'agissant de l'Iran, le deuxième pays le plus touché.
Oui, les chiffres sont sous-estimés dans le cas de l'Iran, puisque beaucoup de statisticiens aux États-Unis notamment, ou d'Iraniens en exil, estiment qu'en fait la contamination en Iran est beaucoup plus importante que ce que laissent pressentir les chiffres officiels, en raison de la létalité qui serait particulièrement élevée en Iran. Donc là, il y a un vrai problème statistique en comparaison avec les autres pays. Mais ce qui est intéressant dans le cas de l'Iran, c'est que c'est la dépendance vis-à-vis de la Chine. On ne connaît pas le patient zéro, mais on a deux hypothèses sur l'origine du virus. Ça serait soit un marchand iranien qui serait rendu en Chine et qui serait revenu à Rome, donc dans la ville religieuse qui est l'épicentre de la diffusion du virus en Iran, ou soit des travailleurs chinois qui participaient à un projet de plus de 2 milliards de dollars de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse en Iran. Et ça serait ces travailleurs chinois qui auraient amené le virus. Donc là, on a une impopularité de la Chine qui atteint des sommets, malgré les sanctions américaines. De même pour le matériel médical, l'Iran a fait une liste de demandes et il préfère s'approvisionner en matériel médical occidental plutôt qu'en produits chinois.
Donc pourquoi est-ce que le régime iranien a été si lent à admettre, et encore les ayatollahs le font-ils à demi-mot, et sûrement pas les plus fondamentalistes, qui continuent de penser que c'est bien là aussi d'aller embrasser à comme tel ou tel mausolée. Et pourquoi est-ce que le régime a été si lent à admettre la gravité ?
Il y a une raison que vous venez de mentionner, c'est le fait que l'Iran est une théocratie, et donc dans le rapport entre science et religion, pour les plus extrémistes, la religion prime. Mais c'est vrai que l'Iran est aussi un État, donc petit à petit, l'aspect scientifique, la demande de la société civile et la pression, un peu le grognement que ma collègue mentionnait sur la Chine, aussi a produit son effet. Donc il y a eu une révolte de la société civile et les autorités ont été obligées d'améliorer le système. Mais il y a aussi, je pense, dans le cas de l'Iran, un retard qui est lié à l'agenda. C'est-à-dire il y avait l'anniversaire de la révolution le 11 février, les élections législatives à la fin du mois de février, et il y a aussi la guerre de l'information face aux États-Unis. Donc le guide suprême a accusé les États-Unis d'être responsables de la diffusion du virus, évidemment, en Iran. Ils ont eu recours à des théories du complot pour expliquer l'origine du virus et pour détourner l'attention aussi de la société civile de cette dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine. Donc il y a le problème des relations d'absence de confiance entre la société et le régime.
Le régime lui-même, enfin les élites du régime ont été frappées.
Alors elles ont été statistiquement beaucoup plus touchées. Donc là il y a un débat. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus accès aux tests que le reste de la population, qui seraient des clients privilégiés du système médical, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont ces liens avec la Chine et cette proximité entre eux, etc. Et donc les prières du vendredi ont été suspendues, donc il y a des événements importants. Et dans le cas de l'Iran, il y a un autre élément, au-delà des sanctions avec les États-Unis, cette guerre de l'information que l'on retrouve dans le cas chinois également, il y a l'aspect des relations avec les pays voisins, puisque le Bahreïn, l'Arabie Saoudite ont accusé l'Iran d'agression biologique. Donc là, c'est une escalade
dans les relations. Et toutes les frontières avec les voisins sont fermées.
Oui, mais en fait, ça ne veut rien dire de fermer les frontières. Malheureusement, dans le cas de l'Iran, puisque par exemple l'Arabie Saoudite se plaint du fait que les ressortissants saoudiens chiites qui vont se rendre en Iran, parce que le foyer dans la province chiite saoudienne en Arabie Saoudite, l'Iran ne tamponne pas les passeports.
Il y a la province pétrolière, au moment où, par ailleurs, les cours du pétrole se sont effondrés, ce qui n'est
donc il y a la menace sanitaire en même temps. et le Bahreïn aussi, parce qu'il y a beaucoup de circulation des citoyens, parce qu'il y a le conflit géopolitique, c'est ce qu'on voit d'ici, mais les échanges entre les populations continuent entre les deux rives du Golfe Persique, et les tensions politiques, sécuritaires aussi, avec la tension militaire en Irak aujourd'hui, compliquent aussi, puisque une levée partielle des sanctions américaines contre l'Iran serait nécessaire, si vous voulez, à la santé non seulement des Iraniens, mais des pays voisins.
Donc alors, là, les forces de l'ordre en Iran avaient reçu la consigne de nettoyer les rues, les magasins. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, pareil, il y a une préoccupation qui monte au niveau de la population et le régime utilise la crise sanitaire pour relégitimer son existence et montrer, en fait, qu'il donne toute sa priorité au bien-être et à la santé de ses citoyens. Il y a 100 000 gardiens de la Révolution et mobilisés, les Basidji, qui sont en charge de rétablir l'ordre, de maintenir le confinement de la population. Les voyages sont interdits pour le nouvel an iranien qui va commencer le 20 mars, où d'habitude c'est une période où tous les Iraniens circulent dans le pays. Donc il y a une mobilisation générale de l'appareil de sécurité pour parvenir à éradiquer le virus. Et donc il y a une campagne de propagande qui est organisée au niveau du guide suprême où il a déclaré le djihad contre le virus, où les combattants, c'est-à-dire les médecins et les infirmières qui sont morts, sont qualifiés de martyrs aujourd'hui. Donc il y a vraiment une instrumentalisation, une inscription de la politique de santé dans le cadre idéologique du régime. Et là, on a un vrai modèle, qui s'inspire peut-être de la Chine, ou en tout cas il y a des convergences par rapport à ce qui a été dit avant.
Précisément, Karine Milsan, passons maintenant à la manière dont des pays démocratiques en Asie gèrent cette même crise. Et commençons par le Japon. On a vu un cafouillage absolument incroyable au moment où ce paquebot croisière, le Diamond Princess, était en quarantaine à Yokohama. Donc ça, apparemment, la bureaucratie japonaise est restée figée, n'a pas su quoi faire, etc. Et le Premier ministre lui-même a été très critiqué. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Japon?
Alors, il faut... Je pense qu'il est important, avant de répondre à cette question, de juste insister sur un point. Il y a une espèce de guerre des chiffres. On regarde combien de cas, tel pays, quelle est la situation.
Mais là, j'ai pas donné de chiffres.
C'est pas dirigé contre vous. Mais je pense que il est important juste de dire qu'en fait, on parle toujours de cas diagnostiqués. C'est pour ça que j'en viens là. Et que c'est quand même lié au système de santé. C'est-à-dire que plus votre système de santé est bon, plus vous êtes en mesure de savoir qui peut être atteint. Bien sûr. Alors évidemment, les cas diagnostiqués, il y a toujours les cas asymptomatiques ou alors avec très peu de manifestations. Donc, on sait que plus la population est jeune et plus il y a de chances qu'elle montre peu de manifestations. Et on sait également, donc du coup, plus la population a un taux de personnes âgées et plus il y a de chances qu'effectivement les cas soient plus importants. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle ici toujours de cas diagnostiqués. Et donc sur ces pays, sur le Japon, pardon, effectivement, il y a eu un cafouillage qui est lié à comment est-ce qu'on gère, sachant que c'est un système de santé qui est un système bismarckien, donc un système qui est basé sur les travailleurs, avec une assurance santé particulière pour ceux qui sont en dehors en fait de ce système bismarckien, qui est géré par la préfecture, donc à un niveau très délocalisé. Et donc du coup, quelque part, là, c'était comment on gère, sachant que le comportement classique des Japonais lorsqu'ils ont un problème de santé, c'est de se rendre aux urgences. Donc on voulait pas non plus voir les hôpitaux embolisés, il y avait vite idée que ça pouvait...
Mais ce qui a déclenché véritablement l'inquiétude, c'est quand le Premier ministre se réveille et déclare la fermeture des écoles. Et donc là, le système de santé s'est mobilisé à ce moment-là?
Le système, c'est un énorme tournant. C'est-à-dire que entre le moment où on ne fait rien et le moment où on laisse la situation grossir et puis cette réaction très forte où on ferme les écoles, en fait, on limite les vecteurs de propagation puisque les enfants ont moins de chances de tomber malades, pas moins de chance de l'avoir,
ou de porter.
Voilà, et donc du coup, on limite davantage, donc on parvient, enfin on tente en tous les cas par cette mesure de contrôler la montée de l'épidémie.
Le pays qui a le mieux réagi, semble-t-il, jusqu'ici, c'est la Corée du Sud, à partir d'un épisode qui paraît là aussi quand même très étrange, qui est cette secte mystérieuse, donc la grande difficulté à pouvoir localiser ses adeptes. Donc c'est à partir de cette secte, dans une ville très spécifique du pays, que le foyer d'épidémie, une secte liée d'ailleurs à Wuhan, en Chine. Mais à partir de là, une fois que ces gens étaient identifiés, la Corée du Sud a mis en branle des moyens tout à fait exceptionnels. Et il semblerait, d'après ce qu'on a entendu ces derniers jours, qu'il y aurait aujourd'hui en Corée du Sud plus de gens guéris que de gens malades.
Alors, il faut voir que pour la Corée, les premiers cas ne sont pas apparus à Séoul, ville la plus densément peuplée. Donc il y a eu, entre guillemets, chance que ce soit apparu dans une zone de moins densément peuplée, donc où il était plus possible en fait de contrôler. Il y a tout de suite eu mise en place de moyens très très importants, et notamment d'une part le dépistage massif, et d'autre part l'utilisation très importante du digital. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu recherche de suite, dès qu'on avait un cas diagnostiqué, de savoir qui aurait pu être en contact avec cette personne et de pouvoir localiser ces personnes et de leur faire passer également des tests pour pouvoir savoir si elles étaient atteintes ou pas atteintes. Donc, c'est à travers, en fait, cette arme digitale qui pose également la question de liberté individuelle, mais qui a eu un effet incroyable en termes sanitaires pour juguler en fait ce début d'épidémie.
Et le champion, toute catégorie, c'est Singapour.
Encore une fois.
Enfin là, c'est une ville-monde, mais ce n'est qu'une ville.
Mais de nouveau, on est encore dans un cas où on a un système de santé incroyable. Donc, vous voyez, vous me citez que des cas où le système de santé est relativement proche du système européen. Des cas où les gens...
Et avec une efficacité, en l'occurrence, bien meilleure que la nôtre.
Oui, enfin, on parle quand même, comme vous disiez, d'un État-cité. Donc,
oui,
du coup,
Singapour,
c'est
oui.
Voilà, exactement. Vous n'avez pas ces déserts médicaux.
Bien sûr.
Donc, oui, je suis d'accord. Mais effectivement, Singapour est particulier parce que ils ont été très rapides dans la localisation et puis ils ont une politique très forte de limiter les urgences avant même l'épidémie. C'est-à-dire que si par exemple vous vous présentez aux urgences pour un cas non urgent, vous avez à payer une somme non négligeable, alors que normalement c'est la gratuité. Donc si vous voulez, il y avait avant l'épidémie déjà un comportement de la population de ne pas se diriger vers les services d'urgence quand c'était potentiellement malade, et donc c'est plus facile d'imposer l'isolement
dans ce
cadre-là.
On retrouve aussi, il faut bien dire que Singapour, certes, il y a des élections, mais c'est quand même un régime autoritaire, en tout cas par rapport aux critères dans d'autres régions du monde, à commencer par l'Europe. Anne Sénéquier, parlons de l'Afrique, qui semble-t-il jusqu'ici est pardon pour ce survol, mais tout le monde s'étonnait jusqu'à ces derniers jours de la relative immunité du continent africain par rapport au coronavirus, et notamment de l'Afrique subsaharienne, malgré la présence massive de Chinois. Où en est-on ?
Où en est-on ? On en est aujourd'hui à l'émergence de cas répertoriés, et je pense que c'est le mot-clé, répertoriés. Donc on pouvait préalablement émettre l'hypothèse, effectivement, que le virus n'avait pas lieu d'être en Afrique. Alors, en plus, ça a alimenté toutes sortes de théories qu'on voit publier sur les réseaux sociaux.
Une théorie de la chaleur.
Exactement, la théorie de la fameuse
chaleur.
Le virus
n'aimerait pas la chaleur.
Voilà. Nous non plus, mais finalement, on survit et on vit même bien en Afrique, donc le virus de la même façon. Et on a énormément de virus qui émergent dans les bandes tropicales, c'est même d'ailleurs leur lieu de naissance préférentiel, donc on peut éliminer cette hypothèse assez facilement.
Jusqu'à quel point est-ce que l'expérience d'Ebola, qui est donc une épidémie dont les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier, je pense à la Guinée, sortent à peine. Mais jusqu'à quel point est-ce que cette expérience-là sert dans des pays pauvres avec une infrastructure sanitaire pour le moins médiocre? Jusqu'à quel point est-ce que cette expérience est utile?
toute expérience est utile, donc et que ça soit pour l'Afrique ou que ce soit pour l'Europe ou le monde en général, on apprend au fur et à mesure de ce qui nous manque, de ce que l'on a besoin, de coordination, d'entraide. Pour l'Afrique, il y a cette nécessité, et c'est pas une nouveauté d'investir dans son système de santé. Et déjà en 2001, il y avait cette conférence à Abuja d'investir et de garder un pourcentage de PIB pour le système de santé, qui aujourd'hui, donc quasiment 20 ans plus tard, à peine 8 pays ont réussi cet objectif-là. Donc encore aujourd'hui, la santé est considérée comme un coût et non comme un investissement. Et là, on se rend compte que cet investissement, il va falloir le faire, parce qu'effectivement, Ebola se termine, l'épidémie d'Ebola qui est actuellement en cours en RDC, est en train de se terminer. Là, le dernier patient vient d'être sorti de l'hôpital. Et un nouveau premier cas de coronavirus dans cette République démocratique du Congo vient d'arriver. On a aussi des conflits, on a tout plein de problématiques, et c'est ça qui complique les choses. Maintenant, oui, il y a cette expérience, mais régionale, des épidémies, et là, la problématique, c'est le côté pandémique. Donc, on va toucher sur tous les pays de l'Afrique. Donc, l'Afrique du Sud, on est assez confiant sur sa capacité à gérer le pic épidémique. Maintenant, sur des pays plus fragiles, ça risque d'être plus problématique.
Et en même temps. Et à chaque fois, on voit, en tout cas, c'est le cas en Guinée. Je crois que c'est une Belge qui a été diagnostiquée. C'est le premier cas en Guinée. Donc, c'est toute la problématique, évidemment, voilà. Des voyages. Et ça nous ramène à notre continent, Lumila Akon, et à la situation, évidemment, de l'Italie par rapport aux autres membres de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, a déclaré en italien « Nous sommes tous des Italiens, on va faire tout ce qu'il faut pour aider l'Italie ». Mais il faut bien reconnaître que jusqu'ici, c'était plutôt du chacun pour soi. Alors, la Commission annonce un plan de 25 milliards d'euros, qui est en fait une redistribution de fonds qui étaient alloués à d'autres objectifs. Mais jusqu'à quel point, pour l'Italie, l'urgence sanitaire est encore plus grande que l'urgence économique ?
Les deux, en fait, à la fois en termes d'origine du problème et aussi en termes de conséquences. Tout d'abord, n'oublions pas qu'aussi l'Italie a été amputée dans son système de santé de 37 milliards dans les dernières 10 ans. C'est aussi par rapport à des règles budgétaires d'équilibre qui lui ont été imposées, qui ont été très fortement critiquées.
Oui, enfin, c'est aussi
critiquées.
Par rapport à une gestion économique, absolument, hélas, défaillante.
Absolument. Mais ça a été notamment critiqué pour, justement, pour ces règles de budget qui ont été, qui ont été adoptées. D'autre part, c'est vrai que la déclaration de Madame von der Leyen a été saluée avec beaucoup d'intérêt en Italie. Disons que la prise de position de la BCE, ou en tout cas la non-prise de position selon les souhaits des Italiens par rapport à des mesures directes dans la situation italienne, a été aussi très fortement critiquée, notamment aussi par le président Mattarella. Il faut dire que la déclaration, l'allocution de Emmanuel Macron a par contre suscité un très grand intérêt de la part des Italiens. Et donc, un peu rassuré par rapport à un non-engagement, c'est comme ça que ça a été pris, de la part de la BCE. Je rappelle aussi que un autre paramètre entre en ligne de compte. Hier, donc il vient d'y avoir un avion chinois qui a débarqué en Italie, à Rome, et qui a apporté des aides de masques, de médecins, de savoir-faire.
C'est ce à quoi faisait allusion Karine Milsan à l'heure. Donc c'est le paradoxe absolu.
Tout à fait, absolument.
C'est-à-dire que la Chine est encore une fois, c'est une récupération politique ou une habileté politique, pour ne pas être péjoratif, mais qui est tout à fait spectaculaire. On voit aussi un Premier ministre, enfin un président du Conseil, comme on dit en Italie, Giuseppe Conte, qui est devenu extrêmement populaire.
Extrêmement populaire.
Alors qu'il a mis son pays à l'arrêt, les commerces sont fermés, plus personne ne peut bouger. Enfin, c'est sans précédent dans l'histoire du pays ou d'un pays démocratique.
Les Italiens en demandent. Les Italiens ont été soulagés par les mesures prises par Giuseppe Conte, et cela peut paraître paradoxal. C'est à la fois un pays qu'on dit souvent à tort indiscipliné, mais un pays de gens qui sont extrêmement, qui ont un sens civique extrêmement poussé. Et donc, il y a vraiment une responsabilité collective qui a été ressentie. Il y a quelque chose de très important, c'est que cette question de la Chine, l'Italie a regardé dès le départ la Chine. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises en Italie ont été aussi en fonction de l'exemple chinois. Hein. Donc vous voyez que ça commence par un regard très appuyé vers la Chine au début de la crise, et ça culmine par cet avion chinois qui arrive aider les Italiens. Vous voyez, donc entre-temps, les Italiens ont eu l'impression que finalement les Européens n'ont pas tout à fait jouer le jeu, ou en tout cas pas tout à fait compris la gravité de la situation, et que eux, finalement, ont acquis une expertise, tout comme les Chinois ont acquis une expertise qu'ils veulent faire partager par les autres.
Et là, Anne Sénéquier, en guise de conclusion provisoire, on voit l'urgence pour l'Union européenne de se doter d'outils de coordination. Il faut rappeler encore une fois que la santé reste l'apanage de chaque État souverain. On voit d'ailleurs que dans un certain désordre et de façon accélérée, les pays d'Europe centrale en particulier ferment tous leurs frontières. La Slovaquie, je crois, mm-hmm. est l'exemple le plus radical. Personne ne peut rentrer en Slovaquie sauf les Polonais. L'Autriche, à son tour, ferme ses frontières. Plusieurs pays d'Europe centrale, encore une fois. On peut voir donc dans cette crise majeure l'ébauche d'une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aucun pays européen ne peut évidemment résoudre cette crise par lui-même, pas plus d'ailleurs que toute autre problématique qui nous est maintenant commune sur le continent.
C'est vrai en Europe, mais c'est vrai au niveau mondial. Mais pour rester concentré sur l'Europe, on en a évoqué tout à l'heure le CDC aux États-Unis. En Europe, on a aussi ça, c'est l'European CDC. Et du coup, il va falloir peut-être qu'il monte en puissance et en coordination avec les différents pays, et on a besoin de cette coordination. Pour l'instant, on a effectivement des sujets communs. La santé, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, mais aussi c'est quelque chose qu'on aborde tous de façon différente. Et là, aujourd'hui, il va falloir accorder les violons.
Même si, encore une fois, en Europe, nous avons beaucoup plus de choses en commun dans des systèmes démocratiques et qui ont construit, depuis la dernière guerre mondiale, systèmes relativement semblables. Karine Milsan, la différence des régimes autoritaires, on n'a pas parlé de la Russie, mais il y a eu ce message hier adressé aux journalistes russes, surtout si vous êtes malade, n'approchez pas du président Poutine. Donc le Kremlin qui évidemment affirme que c'est de la désinformation que d'affirmer qu'il y a aussi des cas en Russie. Donc là, voilà la dichotomie régime démocratique, régimes autoritaires.
Oui, mais régime autoritaire ne signifie pas qu'on ne peut pas prendre de mesures autoritaires et que la population ne peut pas se plier à des mesures autoritaires, et c'est ce que, à mon avis, montre l'Europe et montre l'Italie.
Régime démocratique, vous voulez
dire. Nous sommes dans un régime démocratique, mais nous sommes capables de prendre des mesures autoritaires. L'Europe, en plus, a quelque chose de particulier, quelques partages de Japon, Taïwan, Singapour ou la Corée, qui est que la santé est considérée comme un bien commun. Et pour ce bien commun, nous sommes capables de prendre des mesures autoritaires.
Merci à vous tous pour ce tour du monde à la fois passionnant et préoccupant. Merci à vous, Clément Terme, chercheur au CERI, spécialiste de l'Iran, Anne Sénéquier, co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale à l'IRIS, Ludmila Kohn est docteur en histoire parisien, spécialiste de l'Italie, Karine Milsan, économiste chercheuse au CNRS, et par téléphone, je remercie Sarah Rosenblum, chercheuse française, santé publique et sciences politiques à l'Université du Michigan. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Sylvain Latu, Hugo Boursier a préparé cette émission. Et très bon week-end. Faites attention.